une série d'épisodes spéciaux sur les entrevues qu'on a effectuées au CQSI 2018. L'entrevue est réalisée par moi, Patrick. Et le concept va être qu'on va commenter chacune des entrevues avec Nicolas. Et on fait ça sur la terrasse à Québec, donc petite ambiance en plus. Voici la troisième partie. Pour la prochaine entrevue, on est avec Patrick Leclerc et Louis Nadeau d'OAS Québec, qui nous parlent de sécurité applicative.
Donc, on est avec Patrick Leclerc et Louis Nadeau d'OAS Québec. On va parler un peu de sécurité applicative et de la conférence que vous venez de donner au CQSI. Est-ce que vous pouvez me dire un peu, résumer, en fait, au niveau de la sécurité applicative, où est-ce qu'on se retrouve un peu au Québec, puis qu'est-ce que les organisations devraient mettre en place et devraient faire? Quelle est votre vision par rapport à ça?
Je vais aller à l'avant. Présentement, ce qu'on voit au Québec, on a un bon retard sur ce qu'on voit dans les marchés américains et mondiaux. Je pense que les compagnies ne comprennent pas ou n'ont pas assez de lois ou de contraintes ou de contextes normatifs qui les forcent à faire de la sécurité ou tout simplement que peut-être ils ne se rendent pas compte qu'ils ont peut-être déjà des données qui sortent de leur système.
Qui n'auraient pas la vision, finalement.
C'est ça, qui n'ont pas la vision, justement, que peut-être sont déjà hackés. Mais c'est surprenant de voir là, l'immaturité des organisations.
Quelque chose qu'on a mis dans nos slides, c'est entre autres la grosse disparité entre le budget qui est mis pour l'applicatif versus l'infrastructure. En général, 90% du budget de la sécurité va pour l'infrastructure puis 10% pour l'applicatif. Mais en réalité, si on regarde les risques, il y a une étude de Gartner qui avait ça, 75% des risques est dans la couche applicative. Fait que c'est complètement inversé la proportion du budget. Fait que ça c'est pas juste au Québec, là, c'est mondial que l'applicatif souffre à cause de ça.
Oui, tout à fait. Puis qu'est-ce que vous pensez que la première étape qu'une organisation devrait faire pour mettre en place l'amélioration au niveau de la sécurité applicative?
Ouais. C'est sûr que nous autres, on est biaisés avec la connaissance d'avoir le top 10 de l'OAS. On pense que c'est vraiment ce qui est essentiel là, parce que c'est le minimum que les gens dans l'organisation doivent connaître, les développeurs doivent connaître, puis se défendre du top 10 des risques de l'OAS, là, qui commencent les injections, les XSS, des sérialisations, des choses comme ça. C'est vraiment les trucs de base là, qu'il faut que tout le monde soit au courant. Avec ça, c'est beaucoup de faire de la conscientisation puis du training avec les gens pour qu'ils soient au courant de ça.
Oui, oui. Mais en termes d'action en entreprise, connaître l'OAS, c'est bien, mais comment qu'ils devraient l'implanter?
Training,
vraiment au niveau de formation?
Ouais. Côté training, puis peut-être au niveau des décideurs dans l'entreprise, c'est pas du training OAS qu'ils devraient avoir, mais c'est d'avoir une meilleure vision des menaces. Ils se présentent souvent à mettre des produits sur Internet des services, mais sans avoir pensé c'est quoi l'impact de...
Ouais, le modèle de risque.
C'est ça, le modèle de risque, puis de quoi je devrais me protéger et tout ça. Et si ça s'était fait au départ, bien, les calls pour sécuriser, justement, tout ce qui va se passer dans le développement et dans le déploiement se feraient. Actuellement, c'est que quand bien même qu'on a des développeurs qui sont sensibilisés à faire de la sécurité, quand les gestionnaires veulent rien savoir... ou qui ne sont pas au courant de ça, bien, c'est bien difficile de débloquer les budgets pour ça.
Oui, exact. Puis en termes de plus positif, est-ce qu'on a vu des améliorations quand même au Québec? On est en retard, là, ça tout le monde
le dit. Il y a des firmes qui vont faire des tests d'intrusion avant de faire la mise en prod. Ça permet de trouver certaines vulnérabilités. Le problème, c'est très réactif comme modèle.
Ouais.
Et idéalement, il faudrait que les compagnies aient vu déjà les risques pour qu'ils puissent mettre les bonnes mesures de sécurité puis être beaucoup plus proactifs, justement, sur la menace. Là. Si on regarde, là, justement, avec la cybercriminalité, y a des patterns d'attaque qu'on ne voit pas venir. Puis on n'a pas le choix d'essayer d'identifier c'est quoi la menace pour pouvoir voir d'identifier ces patterns-là lorsqu'ils vont venir. Si on ne fait pas de surveillance ou qu'on ne fait pas du profiling sur comment nos applications fonctionnent et détecter quand est-ce qu'ils sont abusés, bien, on n'est tout simplement juste pas au courant que nos applications sont en train de fuir puis que nos données sont en train de fuir à l'étranger. C'est un des risques que je pense qu'on parlait avec la cybersécurité au Canada, qu'il y a des alertes qui passent, qu'il y a des entreprises qui sont attaquées. C'est curieux lorsqu'on apprend que c'est pas les firmes en tant que telles qui sont notifiées de ça, c'est d'autres organismes qui se rendent compte qu'ils ont ou qui les avisent qu'ils sont sous attaque.
Oui, exact.
Mais dans le positif, tu demandais qu'est-ce qu'il y a de positif. En tant que OWASP, dans la dernière année, entre autres, c'est arrivé, on sent qu'il y a un peu plus d'intérêt. Il y a des organismes comme justement le CQEC aujourd'hui qui nous ont invités, qui autrefois ne l'auraient pas fait. ISACA aussi, on est allé faire une journée à l'université. Fait que on sent qu'il y a un peu plus d'intérêt pour l'applicatif là, dans la dernière année. Fait que je pense que ça va augmenter de plus en plus.
Oui, oui, exact. Puis au niveau de la gestion de risques ou plus de définir les risques, OWASP, y avait-tu un genre de framework relié à ça?
Bien, il y a dans le... OWASP va parler de risques, mettons, sur certaines thématiques. Là, comme là, on avait les risques sur le cloud. On a le risque des applications, le risque du mobile et tout ça. Mm-hmm. Il y a déjà des ouvrages qui sont déjà disponibles là-dessus.
Il y a OpenSAM aussi.
C'est ça.
Qui peut gérer la maturité.
Oui, c'est ça, gérer la maturité de l'application. Mais il y a aussi la modélisation des menaces, là, que je pense que c'est vraiment un des nouveaux aspects là, qu'on voit, où ce que dès le départ, on va essayer d'identifier sur quel terrain on va avoir à se battre pour partir avec les bonnes armes et les bons boucliers pour se défendre, justement, des attaques.
Et à revenir à ce que tu disais tantôt, tu sais, aller justifier un manager, dire, ben on va prendre tous les développeurs, on va les mettre dans une salle une journée de temps, puis on va parler de menaces. C'est difficile à justifier, parce que souvent, ils disent que c'est une perte de temps. Sauf qu'on le sait, nous, parce qu'on l'a déjà fait, que quand on fait ça, à la fin, on va sauver des journées et des journées de travail, de fixer des bugs de sécurité à la dernière minute, parce qu'on va une bonne période de travail au début pour modéliser les menaces, puis tout de suite penser aux mitigations avant même que le code commence. Fait que quand les développeurs codent, bien, ils se rappellent que c'est vrai, il y a telle menace. Fait qu'ils, tout de suite, ils font attention. Fait que on n'est pas réactif, là, on est préventif.
Ce qui était intéressant de travailler avec les développeurs, c'est que ils connaissent les problèmes qu'ils ont dans le système. Du moment qu'on fait un atelier de modélisation des menaces, leurs yeux s'allument. C'est comme s'ils venaient de réaliser tout d'un coup que leur application était vulnérable. Puis là, ils vont se mettre à regarder plein d'autres aspects et dire « Ouais, mais je suis capable de faire ça aussi. Puis si je fais ça, il va arriver tel événement. Puis je vais être capable de prendre d'autres informations et tout ça. » Fait que je pense que c'est bon pour l'entreprise parce qu'au-delà des experts de sécurité qui sont censés tout voir, c'est pas la réalité. D'avoir ceux-là qui sont au day-to-day en train de développer du code, qui sont capables de nous donner aux responsables de sécurité, de dire, bien, regarde, il y a tel aspect de risque que je vois. Et ça permet d'identifier parmi tous les risques d'une entreprise, de prioriser justement les risques qu'on a à sécuriser en premier et pas de dépenser du budget pour essayer de tout sécuriser. On sait très bien que la sécurité a un coût. Et on n'a pas des budgets infinis.
Excellent. Bien, merci, monsieur.
Plaisir.
Je pense que le point principal à retenir côté sécurité applicative, que ce soit OWASP ou non, oui, c'est vrai que les entreprises commencent à en parler. Juste pour donner un exemple personnel, je forçais pour la sécurité applicative dans beaucoup de mandats d'entreprises et autres 2008 à 2010. Puis les efforts mis en place à ce moment-là, j'y vois apparaître aujourd'hui en termes de vrais projets et juste d'influence ou de dire « Hey, faudrait bien faire ça ». Donc, 10 ans plus tard, on se dit « Hey, faudrait bien mettre de la sécurité applicative ». Donc, oui, on est en retard, mais je pense que le point principal, surtout pour les grandes organisations, c'est d'y aller avec le concept de quick win, de mettre en place ce qui va donner le plus de retour sur investissement, le plus de sécurité, sans nécessairement tout virer à l'envers dès le jour 1, dans le sens de dire « Ah, faisons un projet de 3 ans ». Sans faire le projet de 3 ans, il y a tellement de petits détails qu'on peut faire pour rendre la sécurité plus élevée. Là.
Ouais, c'est un domaine qui est en soi très complexe, mais cela étant dit, moi, je suis plus du côté des infrastructures de mon expérience de travail. Et ultimement, on arrive au même constat maintenant dans les applications qu'on arrivait dans le constat avec les infrastructures il y a à peu près 10 ou 15 ans. Là, c'est à peu près le même genre de regard, le même genre de vulnérabilité, le même genre de choses. Et à chaque nouvelle technologie, on répète les mêmes erreurs. Fait que toutes les erreurs qu'on voyait en C et C++ dans les années 90-2000, ben, on les voit dans le web dans les années 2010 et plus. Fait que c'est comme... On répète l'histoire, puis c'est peut-être un peu ça qui est malheureux dans l'ensemble. On répète dans des technologies différentes, des erreurs du passé, on a peut-être en apprend pas.
Oui, mais en même temps, l'apprentissage a peut-être été fait au niveau technique, mais pas au niveau processus, dans le sens que la plupart des organisations qui ont des équipes de développement n'ont pas de processus pour faire la sécurité applicative. Ils ont des processus pour être agiles puis développer rapidement. Ils ont des... ils ont du QA, ils ont des tests et autres qui incluent aucune sécurité. Ils ont des formations qui incluent aucune sécurité. C'est juste que le concept de sécurité devrait être partout, puis présentement, ben on réalise ça.
Ben, c'est sûr qu'au niveau de l'éducation, il y a une faille qui est assez majeure pour au niveau de la sécurité. Puis ça, elle est connue, puis elle est depuis très longtemps. Mais c'est aussi, quand tu parles de processus, de choses comme ça, on revient au fait que les gens qui développaient en C, C++, il y a 10 ou 15 ans, n'ont jamais parlé aux gens qui maintenant développent en web. Fait que c'est deux univers de connaissances qui ne se sont jamais côtoyés, puis dans lesquels on n'a pas partagé ces connaissances-là. Là.
Oui, puis l'exemple que je donne tout le temps, c'est le concept de la voiture. Que par défaut, quand quelqu'un jette une voiture, s'attend à avoir de la sécurité par défaut. En informatique, tout le monde s'en fout. Puis c'est un peu là qu'on est.
C'est un énorme problème, mais effectivement, la voiture, c'est une chose. Mais je vais même plus basique que ça. Quand on ouvre la télé, on veut que ça marche. Quand on appuie sur notre la clé dans l'auto, on veut que ça marche. On ne se pose pas des questions à savoir est-ce que l'ingénieur qui a réfléchi à mon auto ou à ma télévision a réfléchi à l'ensemble des choses. Donc, sûr qu'en tant que consommateur, on est où?
On pense que c'est déjà là. Puis parler à n'importe qui achète un ordinateur ou qui se connecte à Internet, demandez-y, hey, pensez-vous que c'est sécuritaire? Ben oui, parce que tout devrait l'être. Je veux dire, c'est par défaut. Fait qu'eux, ils comprennent le concept un peu que le social engineering peut les affecter. Ils vont pas se dire que tout est brisé puis tout est tout croche partout, là.
Ah, c'est ça, c'est peut-être dans les gens d'infrastructure qu'on devra mettre d'infrastructure au sens large, au même sens où les ingénieurs ont des critères pour développer les ponts, donc les gens qui développent les systèmes informatiques devront avoir des critères équivalents pour s'assurer que ça explose pas et que ça tombe pas sur les gens.
Oui, exact. Puis quand je parle de quick win, tu sais, simplement mettre un checklist à tous vos développeurs et vos chargés de projet pour faire OWASP Top 10 ou y penser ou le vérifier. C'est simple, ça prend à peu près une heure de préparation à mettre en place. Mais le nombre d'organisations qui font ça pour vrai, on la compte sur une main. Fait que...
Ah, c'est sûr que les checklists sont une amélioration assez importante. Puis il y a des pilotes d'avion qui. Puis justement, en parlant de pilote d'avion, il y en a un qui passe au-dessus de nous. C'est un hélicoptère plus qu'un avion, mais dans ce cas-ci, les pilotes d'avion ont des checklists très, très rigides sur l'utilisation. Puis avant toute la séquence de pré-décollage, puis cette checklist-là, c'est pas niaiseux, mais c'est très utile parce qu'à l'aide de cette checklist-là, il évite des oublis dans lesquels, des fois, dans la distraction, parce qu'on est tous des humains, il oublierait un certain nombre de contrôles qui pourraient mettre la vie des gens en danger dans le cas d'application, mais il faudrait faire la même chose, avoir des checklists de base. OWASP est un exemple très, très parlant de checklist dans lequel on doit faire minimalement puis qui nous aide à nous mettre à niveau. Puis c'est sûr qu'on n'a rien oublié dans les différentes choses.
Exact. Fait qu'on est rendu là, puis je pense que la prochaine étape va être vraiment d'inclure la sécurité partout.
Yep.
Donc, ça conclut notre entrevue avec OWASP Québec. Comme prochaine entrevue, on parle avec Sophie Villeneuve et Maxime Couture qui vont nous décrire entreprendre en couple, innover, solutionner les problèmes et concilier efficacement.
Donc, je suis avec Sophie Villeneuve et Maxime Couture qui viennent de donner une conférence au CQSI concernant l'entrepreneuriat en couple, comment innover, les solutions, les problèmes et tout. Et j'aimerais voir votre approche, en fait, sur comment et votre vision sur la sécurité et la communication et votre vision, comment mettre ça en place, en fait. Là.
À la base, dans toute situation de crise, dans toute situation d'urgence, puis c'est souvent ce qui a un potentiel de se produire, la sécurité informatique, ça vise à prévenir des crises ou à prévenir des brèches. Si l'information n'est pas suffisamment bien communiquée, on s'expose à davantage de problèmes. Il y a de la communication en amont, il y a de la communication pendant la crise, puis il y a de la communication après. Donc, je pense que le type d'expertise qu'on a en gestion de crise ou en communication de crise peut faire la différence dans une situation où il y a une problématique en sécurité informatique.
En fait, ce qui arrive aussi, c'est que dans le cadre d'une crise, c'est que la même crise peut survenir à plusieurs moments, à plusieurs fois, mais elle va être communiquer de manière différente et les résultats vont donc être différents. Donc, la même crise peut survenir, mais si on la communique de manière différente, le résultat, la sortie, la finalité va être complètement différente. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien communiquer avant la crise, pendant la crise et après la crise.
OK. Puis pour toute organisation qui désire prendre ça en considération pour la gestion d'incidents et autres, est-ce qu'il y a un truc ou quelque chose officiellement faudrait qu'une organisation fasse ou évite à tout prix?
Ne jamais sous-estimer ce que ça peut offrir comme potentiel de bien préparer les communications dans le cas d'une brèche ou dans le cas d'une situation de crise en sécurité. Donc, la préparation en amont, je le disais tantôt, puis c'est une statistique qui s'applique, on arrive chez les clients dans 90 % du temps en situation de crise. Et 100 % des clients nous disent que si on y avait été avant, la crise ne se serait pas produite.
Ouais.
Donc, de bien préparer les communications, de prévenir ces problématiques-là, ça règle un grand nombre de problèmes.
Okay. Ouais. Puis quand on parle de prévenir ça, c'est d'avoir vraiment un plan de communication, de savoir qui fait quoi à quel moment, finalement?
De bien définir les rôles, oui, de bien définir les rôles, je pense.
C'est pas de se dire est-ce que la crise va survenir, c'est quand la crise va survenir, c'est de faire la liste des différentes crises qui peuvent toucher votre organisation.
Anticipation.
Que ce soit une brèche informatique, que ce soit du vol d'identité, que ce soit une panne de serveur, et de faire un plan dans chacun, faire un scénario dans chacune de ces situations-là pour dire qui fait quoi exactement, qui communique quoi et qui communique à qui. Et ça, c'est la chose qu'on oublie pendant qu'on est dans la crise. On pense juste à essayer de colmater la fuite. Puis pendant ce temps-là, les gens se créent des histoires, ils s'inventent des scénarios. Et là, l'histoire devient 100 fois plus grosse que ce qu'elle était parce qu'on a mal communiqué.
Voilà.
Excellent. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, Patrick.
Ça, c'était une conférence super intéressante. Puis je pense que c'est un sujet qui est très, très, très peu abordé. Puis en même temps, le pourquoi, c'est parce que considérant qu'on est un petit peu en retard en sécurité, ben le côté après s'être fait attaquer, on n'en parle pas très beaucoup. Donc, gestion de crise et autres. Puis c'est un des points qu'il faut que toute organisation s'améliore, autant au niveau d'avoir un genre de socle, d'avoir une vision sur les attaques, mais quoi faire quand il arrive quelque chose?
Ah, c'est fondamental ce qu'ils ont amené comme point dans leur conférence, parce que dans ce cas-ci, j'ai eu une des seules à laquelle j'ai assisté parce que il y avait un sujet qui était plus proche de mes intérêts personnels. Donc, j'ai été complètement soufflé par le contenu de leur conférence. Malgré qu'on travaille en technologie, l'humain est fondamentalement très important dans la gestion de crise. La gestion de communication qui est fondamentalement humaine aussi est très importante. Puis si tous ces aspects-là ne sont pas bien organisés, on n'est pas bien positionné pour réagir de façon adéquate à une crise. Et en ce qui relatait, entre autres, aussi dans l'intérieur de leur conférence, ils abordaient le fait qu'ils ont eu une longue expérience dans la politique dans laquelle la gestion de crise est fondamentale et la gestion de crise, elle est intrinsèque à leur fonctionnement. À quelle capacité ils étaient capables de régler ce genre de choses-là et à quel point ces outils-là devraient être réutilisés en TI dans lequel on fait souvent fi parce qu'on pense que la technologie est probablement le cœur même de ce qu'on fait quand dans les faits...
C'est plus juste un helper, finalement.
C'est plus des humains que que de la technologie. Fait que si on n'est pas prêt en tant qu'humain à affronter une crise, c'est pas parce qu'il y a un système TI qui a explosé qu'on va être plus capable de faire quoi que ce soit. Là.
Non, exact. Puis les dernières choses qu'il dit dans l'entrevue, le concept de qui fait quoi quand, c'est un des éléments les plus importants. C'est pas parce que vous avez une infrastructure qui va détecter des intrusions et autres, que vous avez un processus avec un SOC. Si vous n'avez pas le détail dans le processus qui dit qui a le droit de faire telle action ou de mener l'enquête ou whatever, la réaction... ça va juste dégénérer. Là, j'ai vu des entreprises qui ont énormément de talents technologiques qui vont découvrir plein de choses, mais on n'a aucune idée qui a le droit de dire « Bon, ben tel VP va être impliqué, puis là, ben c'est pas une personne au niveau VP, là, c'est une personne au niveau du socle technique, mais il faut que la personne ait le pouvoir puis sache qui interpeller dans quelle situation. » Puis sans ça, ben, on se tire dans le pied. Là.
Tout à fait. Puis leur exemple, eux autres, dans lequel ils ont commencé à décider d'entreprendre en couple, et c'est tout à fait un élément intéressant parce que entreprendre, fonder une entreprise en couple, ce n'est pas simple parce que déjà dans nos couples, il y a plusieurs qui ont des certains degrés de problèmes de communication, mais maintenant on l'entreprend en plus. Donc les problèmes du bureau ne se transposent à la maison et sont présents à la maison de façon constante. Ce n'est pas nécessairement un élément très simple à gérer. Et ils ont abordé à l'intérieur de la conférence, et ça, je ne peux pas relater avec le même degré de complétude que de leurs éléments, mais à quel point ils ont quand même réussi à trouver une zone de collaboration dans le couple. Et dans cette zone de collaboration-là, c'est permuté dans la fondation de leur entreprise, et donc sont un élément de base et quand même un élément intéressant dans l'entreprise à comprendre que ça se limite à des éléments qui sont fondamentalement très, très de base, c'est-à-dire respect des territoires des gens ou des choses comme ça, mais des territoires de compétences et de ne pas s'immiscer dans les territoires de compétences des autres est déjà un élément très favorable à la collaboration et dans un couple, c'est fondamental aussi. Là.
Exact.
Et pour faire une parenthèse, parce Patrick et moi, on a un ami commun, Stéphane, qui actuellement fait des tournées mondiales et a abandonné, malheureusement, là, c'est la consultation en sécurité pour aller jouer de la musique à travers le monde. Puis en ce sens, je suis un peu envieux parce qu'il a accès à des
plus
choses...
Plus heureusement que malheureusement.
Oui, plus heureusement ultimement, là, mais en tout cas, il a accès à des choses qui, pour nous, est un peu inaccessible, disons. Et ce qu'il me relatait dans une conversation qu'on a eue il n'y a pas si longtemps... Lors des tournées de musique, lui est dans un contexte spécifique, mais j'imagine que la plupart des tournées de musique sont comme ça à travers le monde. Quand que le montage et le démontage des scènes et des éléments qui sont arrivés au spectacle, les gens qui sont là sont ultra spécialisés, connaissent leur domaine, le gars de son, le gars de vidéo, le gars d'éclairage. Ils connaissent ultra bien leurs choses. Et à moins de savoir ce qu'on dit, il faut se mêler de ses affaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à discuter au gars de son qu'il ne fait pas bien ses affaires, ou on ne va pas dire au gars d'éclairage qu'il ne fait pas bien ses affaires, dans la mesure où on sait vraiment de ce qu'on même on se parle. Donc, on est très structuré, très compartimenté, et dans la mesure où tout ça doit rouler vite. Une scène se monte en moins d'une journée et se démonte en moins d'une heure. Donc, tout ça est très, très rapide. Fait qu'on a peut-être intérêt dans les TI à être un peu moins ça.
Yes. Donc, ça conclut notre entrevue avec Sophie et Maxime. Notre prochaine entrevue, on est avec Steve Waterhouse et il nous parle de « Sommes-nous en état de guerre, la cyberguerre, regard sur les cybercapacités adverses envers notre pays ».
Donc, je suis avec Steve Waterhouse qui vient de donner une conférence sur « Sommes-nous en guerre, un regard sur les cybercapacités adverses envers notre pays ». Steve, quelle est, selon toi, la vision aujourd'hui, en 2018, du Canada, du Québec, en termes de guerre? On est-tu bien protégé? Est-ce qu'on se fait réellement attaquer? Ça ressemble à quoi un peu au niveau du pays?
Ben, c'est quand même une photo. La première réponse que je peux te donner à la question « Est-ce qu'on est en guerre? » Je te dirais oui. Mm-hmm. Je n'ai pas de misère à le dire, puis je ne suis pas gêné de l'approcher parce que faut voir la réalité telle qu'elle est. Les infrastructures sur lesquelles étaient bâtis les réseaux commerciaux qui échangent à travers l'Internet sont très fragiles. Et de plus en plus, on voit des incidents arriver par cette fragilité-là qui fait en sorte qu'il y a du monde qui perd des données, il y a du monde qui perd des centaines, voire des millions de dollars en termes d'économie parce qu'il y a eu compromission des réseaux, il y a eu interdiction des réseaux parce des attaques de données de service qu'on voit de temps en temps. Mm-hmm. Fait que là-dessus, ça donne l'idée que les meilleurs efforts sont faits avec les technologies qu'on a, avec les compréhensions de la menace que l'on a. Et cette menace-là, elle change de façon fréquente et c'est très dynamique la façon qu'elle s'adapte. Demain matin, on va avoir un autre type d'appareillage de type iOS, d'Internet des objets, qui va apparaître et que ça va encore là multiplier par un facteur de 10 000 la capacité de faire une attaque de données de service. Les dernières ont monté au-dessus du terabit par seconde. Fait que là, ça va aller peut-être à deux fois le terabit par seconde. Tabarnouche. Fait que là, qu'est-ce qu'on a pour se protéger? Bien, les institutions font en sorte qu'ils vont de plus en plus se mettre ensemble, regrouper les ressources. Je prends comme exemple au gouvernement fédéral, ils mettent tous les efforts nécessaires. Ils ont réduit beaucoup le surface d'attaque en réduisant la quantité de data centers. en réduisant aussi les portes d'entrée à l'Internet, aux portes de sortie aussi, ce qui fait en sorte que ça devient... ils vont concentrer les ressources juste en un lieu, à quelques lieux, c'est plutôt, et que ça va minimiser justement cet impact-là. Donc, ils s'attirent une meilleure résilience de cette manière. Dans les provinces, ils emboîtent le pas au fédéral. Il y a des législations qui vont être votées bientôt qui vont aider justement la dénonciation de perte d'information. Ça va aider grandement à ce que les compagnies puissent, à ce moment-là, participer à l'effort, parce que bien souvent, les compagnies ne participent pas parce que c'est un coût monétaire. Il faut qu'ils défendent le coût monétaire, mais alors que c'est un... c'est éthiquement la chose, la bonne chose à faire, mais ils ne le font pas, malheureusement. Puis j'ai été témoin à plusieurs reprises dans les grandes entreprises qui choisissent volontairement, sciemment, de ne pas divulguer qu'ils ont eu une attaque, de ne pas divulguer qu'il y a eu une fuite d'informations. Fait que ça, c'est malheureux. C'est le picture. Puis ça, c'est pas juste en cyber. Je veux dire, ça arrive dans toutes sortes de domaines. Oui, oui. Fait que là-dedans, faut y aller avec le contexte que peu importe si c'est cyber ou physique, ça va toujours encore être un dossier à travailler. Mais ça...
ça reste que les organisations ont une grosse peur d'avoir un impact s'ils disent qu'ils se sont fait avoir ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment dans ce sens-là. Mais en même temps, les grosses organisations aux États-Unis le font.
Oui, mais ils sont équipés pour le venir à bout. Ils ont des bonnes équipes d'avocats. Le légal suit tranquillement aussi la vague. Le légal va être capable de s'en sortir, va être capable d'argumenter favorablement souvent. Mais ce que je vois, c'est difficilement aussi la législation qui vient... de façon préventive, laisser savoir qu'une entreprise n'a pas fait sa job. Exemple, je prends juste Ashley Madison qui est arrivé il y a quelques années. Bien, le rapport qui est sorti, puis j'ai eu cette discussion-là à une conférence cette semaine, et que, puis ça, c'est un avocat qui était sur le dossier avec qui j'ai eu l'argument, puis l'argument était, bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'Ashley Madison? Je veux dire, il y a eu une étude faite par une enquête menée par le commissaire à la vie privée en Australie et canadien, et le rapport final a fait état de 24 recommandations. Puis ces recommandations-là, parce qu'ils ont été implantées avant la date butoir, bien, ils ont dit, bien, félicitations, monsieur compagnie, vous avez bien fait, master, faites attention, là, faites pas ça encore. Fait qu'est-ce que ça donne comme message? Mais ça donne que la vie privée de ces 40 millions qui ont été impactés par Ashley Madison, 38 pour être exact, bien, eux autres, il faut qu'ils vivent avec le fait qu'il faut qu'ils recommencent quasiment à refaire toute la vérification des identités, participer au programme de vérification de piratage, etc. Mais ça laisse le sous responsabilité. Payé par la compagnie, ben d'accord. Mais il reste que la prochaine fois qu'il va arriver une autre fuite de même, bien, les conséquences peuvent être plus graves parce que ça va se répandre plus rapidement que dans ce cas ici. C'est ça qui est un peu malaisant, puis que je trouve que la législation ne s'adapte pas à dire fermement aux compagnies, bien, prenez les moyens, parce que si vous n'avez pas ça, voici la conséquence, puis ça va faire ses forts. GDPR qui s'en vient en Europe le 25 mai.
Ça aura une grosse conséquence.
Bien, voilà. Puis c'est un peu dans ce sens. Quand j'ai vu la première fois le GDPR de manière qui était présentée, j'ai dit enfin. Enfin, ça fait réfléchir les grosses compagnies. Mais quand même, Facebook va embarquer, puis il va se dire, hey, à travers la planète, on va le faire respecter. Bien, tabarouette, tant mieux, tu le fais respecter. Voilà un exemple corporatif avec lesquels peut-être les autres joueurs n'auront pas le choix de suivre et ça va avoir un effet positif, tant qu'à moi, sur nous autres ici au Canada.
Excellent. Puis si on parle côté attaque, oui, on est en guerre, oui, on se fait attaquer non-stop, autant au privé qu'au gouvernement. Mais côté attaque du gouvernement, on est-tu dans ce sens-là? Est-ce que le Canada a publiquement annoncé qu'il voulait le faire ou...
Bien, qu'ils veulent faire, c'est une protection.
Une équipe d'offensive, oui.
Bien, l'équipe d'offensive, oui. Je participe aussi sur l'élaboration d'une équipe de cyber-réserve. Donc, pas juste une équipe, vraiment développer le métier de réserviste, mais en cyber-opération, qui va compléter un peu la posture de qu'est-ce que le CST et la Défense nationale mettent de l'avant. Autrement dit, le métier se veut d'être... Présentement, il y a des équipes de spécialistes qui en font la cyberdéfense sur une base journalière, 24/7, là, 365 jours par année. Et ils font un très beau travail parce qu'ils font un effort de collaboration avec le CST, le GRC, le service de renseignement, le CRS, la Défense et aussi donc le Service partagé Canada qui voient à ce moment-là ce que l'ensemble des services fédéraux sont protégés tant en amont qu'en aval. Ceci dit, bien, à un moment donné, il faut répondre. Puis répondre dans le sens qu'il faut trouver une manière d'être capable de dire, bien, si on se fait donner de la misère, il faut peut-être être capable d'en donner de la misère ou de façon préventive aller contrer cette misère-là en amont. C'est ça qui nous manque. Fait que là-dessus, oui, le séminaire de recherche faisait en sorte qu'on est à la recherche présentement de la meilleure solution, la meilleure approche possible pour être capable d'identifier, bon, ben est-ce qu'on va sous-contracter une personne X ou une compagnie X, ou bien on s'en va dire, ben on va l'enrôler, il va devenir militaire à part et à pleine et entière, et après ça, ben à temps partiel, on va l'utiliser. Fait que ça, c'est présentement la discussion qu'il y a, parce que d'utiliser quelqu'un pour faire un service de militaire à temps partiel par fin de semaine dans les armes de combat, c'est facile parce que la séparation est claire. Lorsqu'il quitte ses fonctions militaires, il s'en va dans le civil, il ne peut pas répliquer ça. Par contre, il peut utiliser ses fonctions de superviseur, de gestion de temps, gestion de personnel sur l'entreprise privée. Et ça, c'est très. Les employeurs, ils trippent là-dessus. Fantastique. Par contre, lorsqu'on parle propriété intellectuelle, de l'environnement télématique, informatique, ça va être la même chose. Une adresse IP d'une place à l'autre, ça va être la même affaire. Puis après ça, l'exploitation des réseaux, lorsqu'elle se fait, ça va être une ligne virtuelle qui va être créée entre le monde unitaire et le monde civil. Et de là vient la discussion. Comment est-ce qu'on adresse ça? Mm-hmm. Est-ce qu'on laisse libre cours à l'échange de part et d'autre, civil-privé, c'est-à-dire civil versus gouvernement, ou bien on arrive puis la personne va quasiment se faire zapper le cerveau avant qu'il retourne dans l'ouvrage? Fait que c'est un peu là la discussion à aller. Fait que la capacité, elle est identifiée. Elle se veut d'être bientôt mise de l'avant. J'espère, en tout cas. Puis moi, je travaille, en tout cas, pour être capable d'intégrer cette capacité-là. Ben, j'y crois. Maintenant, je ne crois pas que ça peut être fait en temps partiel. C'est un ongoing project. De l'IP, une attaque n'arrêtera pas parce que toi, t'arrêtes puis tu vas te coucher, au contraire.
Comme les entreprises.
Voilà. Fait que ce n'est pas une menace qui est partielle. C'est une menace pleine et entière. Je crois beaucoup plus que la personne va être utilisée à temps plein dans sa fonction, mais peut-être pas rémunérée à temps plein.
Oui, exact. Excellent. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Moi, un des points qui m'intéresse le plus par rapport à ça, c'est vraiment la capacité militaire offensive que le Canada a décidé de mettre en place. Il y a peut-être une dizaine d'années, mais qui ont décidé d'engager du monde cette année, en 2017-2018, pour créer une équipe d'attaque puis en même temps défense dans l'armée. Puis là, le point qui est un peu ce que Steve disait, qui va bugger, c'est qu'on n'implique pas assez peut-être les civils. Donc, on se ramasse avec peut-être un problème de nombre de personnes intéressées ou de compétences en même temps. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler.
C'est un très drôle de problème parce que... Pour avoir assisté au Black Hat puis au DEF CON à plusieurs reprises, où justement des bons de la doctrine militaire américaine sont venus présenter ou de très haut gradés sont venus discuter des éléments par rapport à ce genre de choses-là.
On n'est pas là du tout. Là.
Puis même encore de nos jours, même au niveau américain, on n'est pas encore dans cette réflexion-là où le monde du cyber ne se définit pas selon les règles militaire dans le monde kinétique. On n'a pas de barrière, on n'a pas de montagne, on n'a pas de cours d'eau.
Puis l'armée est basée sur le physique.
Oui, c'est ça. Puis le monde de réservistes dans lequel Steve parlait, n'existe, on ne peut pas exister parce que c'est pas un besoin ponctuel dans le temps où on a une invasion ponctuelle dans le temps. On a une guerre continue. Mais ce n'est pas une guerre au sens militaire, au sens où on veut acquérir des territoires plus grands, parce qu'une guerre militaire est sur la base de territoire, et sur la base physique et sur la base de frontières, ou la défense de ces frontières, ou augmenter ces frontières par rapport à d'autres. Dans un cas de cyber, les frontières sont virtuelles. Et n'existent pas au même sens où on les perçoit au sens militaire. Donc, c'est très difficile d'aller chercher une force qui est associée à ça. C'est très difficile d'avoir une réflexion associée à ça. Parce que dans l'époque où on est rendu maintenant, puis ici, on n'a pas fait de référence, mais la propagande dans le monde cyber est une arme de destruction massive. Et
c'est le contrôle de la communication puis des données, finalement.
Oui, puis c'est ça. Puis faut pas s'en cacher. Les Russes sont comme des kings là-dedans à l'heure actuelle. Yep. On a l'air comme des enfants d'école parce qu'on ne maîtrise aucunement la propagande au niveau cyber et ce qu'on appelle de façon tout à fait cute le fake news. Mais le fake news, c'est de la propagande. Puis ça fait déjà des dizaines d'années que ça existe. Puis dans le cyber, on contrôle peu ou carrément pas ce que c'est.
Oui, exact. Puis il faut comprendre en même temps que le cyber, il faut qu'il soit vu comme un élément de plus, que ce soit l'air ou la terre, mais pas au niveau d'un concept de frontière, mais au niveau d'un concept d'opération, de dire ben c'est un élément de plus qu'on peut utiliser pour arriver à nos fins. Mais il est constant. C'est tout le temps, c'est pour soit faire de l'opérationnel, soit pour avoir de l'OPSEC ou de l'OSINT, avoir de l'intelligence web, puis même jusqu'à aller à défendre puis détruire des, comme on a vu avec certains virus pour détruire des centrales nucléaires et autres, là, comme Stuxnet.
Ouais, les choses d'enrichissement nucléaire en Iran, exact, entre autres, qui ont été usées. Fait que c'est un univers qui est différent dans lequel, d'un point de vue strictement militaire, devra avoir une doctrine qui probablement lui être propre. Il y avait un des très hauts gradés américains qui avait parlé lors d'un Black Hat que j'ai assisté, qui justement mentionnait que le cyber était un théâtre d'opérations distinct des autres, comme étant l'air, la terre et l'eau qui sont des théâtres d'opérations qui sont spécifiques. Mais même encore là, parce que ça fait quand même déjà plusieurs années, j'avais trouvé l'idée très intéressante à l'époque. Je suis même pas sûr qu'elle est aussi complète parce que elle transcende plus. C'est un univers qui en soi est synthétique parce qu'il est créé entièrement par l'humain.
Ouais, c'est plus un service offert à tous les autres éléments, si on peut dire.
Ouais, c'est un autre univers. Fait que je suis pas convaincu qu'à l'heure actuelle, les grands penseurs de la doctrine militaire sont encore rendus là.
Pas du tout, même.
Ouais, je suis peut-être un peu moins radical que toi, mais je trouve...
Aux États-Unis, ils sont quand même en avance là-dessus. Je veux dire, ils ont participé au Black Hat DEFCON, mais au Canada, ils sont loin de vouloir dire on va mettre un DARPA, faire financer du public, on va s'afficher publiquement, dire on va faire telle chose. On est un peu loin.
Je te dirais que tu es peut-être un peu non objectif là-dedans. Je dirais, au dernier Hackfest, quand même invité les gens qui ont développé... des éléments intéressants.
Oui, mais ils ne sont pas considérés directement dans l'armée comme la défense ou les forces, mais sont main dans la main, effectivement.
C'est vrai, ils sont quand même pas si loin, mais...
Ils ont juste pas la même structure militaire. Je pense que c'est là le bug. La hiérarchie militaire a beaucoup de misère à faire le switch au niveau que... Un peu comme il explique, tu sais, un IP autant au niveau militaire que civil, c'est la même chose. Puis c'est là que la coupure est dure parce que de montrer des tactiques militaires avec des tanks et autres, ça se réplique pas au niveau commercial.
Ouais, effectivement, mais on tombe dans un monde où la guerre a été développée par des civils. Fait que le cyber a été développé par des... Ben, a été initialement développé par des militaires pour un objectif de résilience, finalement, qui a été réutilisé par des civils pour développer ce qui maintenant est rendu l'Internet. Et dans lequel maintenant la guerre se propage de façon. Fait que là, on est dans un monde où les militaires n'ont peut-être pas des années 70 où le ARPANET était pour protéger leurs informations. Dans lequel maintenant c'est un environnement purement commercial, dans lequel la guerre a lieu, qui est mélangée avec du civil. Fait que je pense qu'on est.
Ouais, c'est un beau petit bordel.
C'est un beau puzzle, un très beau puzzle. Puis je pense que, de toute façon, Steve est rendu maintenant résident avec nous autres. Fait que je pense qu'on va en reparler largement et à plein d'autres occasions.
Donc, ça conclut notre épisode avec Steve Waterhouse. Ça conclut notre troisième épisode sur les entrevues du CQSI 2018. On se repart pour la quatrième.